Archives du temps présent, radiographie d'un espace vécu. Écoutez la transformation entre ville et campagne, l'empreinte de la métropole toulousaine. Prendre la voiture, ouvrir les micros, au fil des ronds-points et des lotissements, des cœurs de village et des voies rapides. Tenter de saisir quelques bribes des histoires qui se trament dans l'agglomération.
À la Gardelle, il y avait 5 épiciers.
Je suis arrivé par hasard dans cette ville en 2015.
Maintenant, il n'y a plus rien, ni boucher, rien.
C'était idéalement placé entre deux autoroutes.
Par là, c'est zone protégée, à cause de beaucoup.
Qu'est-ce que la transformation du quartier va changer pour toi?
Si on est encore une frontière, ouais.
Attends, mais parce qu'il va changer le quartier?
Épisode 5, un monde sonore.
Nous voici au terme de ce parcours. Arrêtons-nous et descendons de la voiture. Derrière ma voix, vous entendez les éoliennes de Saint-Félix-de-Lauragais. Nouvelles venues dans le paysage, elles ont un son caractéristique, régulier et sourd. On a peu parlé spécifiquement du son tout au long de ces 4 premiers épisodes. Pourtant, c'était présent tout du long. Premièrement, c'est le médium par lequel nous avons choisi de restituer cette archive. Ensuite, et d'abord, c'est ce qui nous a servi de prétexte à l'exploration de cette zone de déclencheur en quelque sorte. Nous avons pris la voiture, le plus souvent pour faire des parcours concentriques autour de Toulouse. Nous avons aussi fait quelques déplacements en vélo qui nous ont permis d'apprécier différemment cet espace, de justement ressentir pleinement la composition sonore tout au long du parcours et non pas isolé dans l'habitacle de notre véhicule. Nous avons effectué plus de 77 enregistrements sur 47 localités. Ce sont des captations longues où nous ne cherchons pas un détail en particulier, mais plutôt une ambiance. Le choix des localités s'est fait sur un rayon de 20 à 50 km autour de Toulouse. Le déplacement circulaire autour de la ville, centre, nous a permis d'échapper au déplacement pendulaire entre la ville centre et sa périphérie. De fait, l'urbanisation s'étant principalement développée autour des axes de circulation, nous avons pu observer des espaces beaucoup plus variés, tant du point de vue visuel que sonore. C'est une expérience tout à fait à part que d'écouter une zone géographique, et encore plus de la capter via des dispositifs d'amplification sonore. Mais nous n'inventons rien. Dans les années 60, Murray Schafer proposait de s'intéresser à notre environnement acoustique dans le cadre d'une écologie sonore qui s'inquiétait de la disparition de certains paysages. Il disait, je cite, « Avec le temps, de plus en plus d'invasions dans la vie des communautés vont détruire le paysage sonore originel. » Il est vrai qu'on peine à s'imaginer un paysage d'avant la mécanisation, mais étrangement, on peine à se représenter encore plus que ce n'était pas si lointain. D'une certaine manière, nous avons repris cette exploration. Explorer par le sonore, c'est changer de point de vue. C'est comme de chausser de nouvelles lunettes, enfin d'avoir un nouveau regard. Bon, j'ai beau chercher, je ne trouve pas d'autre métaphore que visuelle. C'est troublant de constater comment l'ouïe est peu mis en valeur dans notre vocabulaire. Pourtant, c'est un fait, l'activité humaine a une empreinte sonore particulière. Le coin de la rue du Thor un jour de printemps. Un supermarché à Villemur un jour d'été. L'air de jeu de la cité Cafor un jour d'automne. Aujourd'hui, les enfants n'y jouent plus, mais ce sont plutôt mais sont des travaux comme ceux-ci captés à Mieux-Lyon en hiver. Des fois, la ville nous offre des ambiances sonores des plus étranges. Ici, en bord de Garonne, une composition au son bizarre, faite de cris de mouettes et de leur interaction avec la voûte du Pont Neuf et la masse d'eau de la Garonne que l'on entend à peine parce qu'elle est immobile ici. On entend aussi en fond la rumeur de la ville qui fait nappe. Finissons avec un fond sonore plus agréable avec cette nuit d'été captée aux Fioles. Peu de vie, contrairement à une captation de jour vers l'Aiguevin au printemps. C'est complexe l'ambiance sonore d'un lieu. Ça dépend de tellement d'éléments. Les activités humaines ou animales qui produisent des sons. Les sons indirectement produits, tels plaques d'égout qui claquent au passage des voitures, par exemple. Le vent et son passage dans les feuilles, les insectes. Mais aussi la composition matérielle de l'espace qui réagit aux vibrations de l'air, diffuse, étouffe, répercute. Et puis, nous qui écoutons, ou pas, qui prêtons attention, ou pas, à tel ou tel son. Se mettre en situation d'enregistrement nous révèle l'importance de cette attention. Le casque sur les oreilles, le paysage sonore se transforme, 1000 détails apparaissent. La différence est parfois saisissante. Ce que nous projetons sur un lieu, ou ce qu'éveille en nous un lieu, vient parfois troubler notre écoute. Voici une petite expérience. Un premier lieu, non loin d'un parking d'une boulangerie industrielle, à l'extrême limite sud de Toulouse, route de la Bège. Ça sent le goudron. Un peu plus loin, à quelques mètres seulement, à l'ombre d'un chêne centenaire, la vue sur un champ, nous notons sur nos carnets l'impression de calme et d'apaisement. Ce lieu promis à la zone d'aménagement concertée Malpère semble être un morceau de campagne. L'enregistrement démarre et le charme est rompu. Le drone urbain est très présent. Agglomération de basses, c'est une sorte de bourdon continu dont une bonne part est due à l'automobile, mais aussi à divers équipements qui constituent la machinerie invisible de la ville. En comparant les enregistrements, nous constaterons que cette vibration est bien plus importante que précédemment. Cet espace de calme est bien plus bruyant que l'espace précédent qui sentait le goudron au bord de la route. C'est comme de découvrir la vie microbienne sur une surface qui nous semblait vide. Ainsi, si nous n'avons pas de paupières à nos oreilles, notre attention trie et organise ce que nous percevons. Et ce que nous retenons comme la sonorité d'un lieu n'est pas ce que nous captons avec nos micros. Un peu comme des photos de vacances, ne sont pas exactement nos vacances. Dès lors, l'expérience sonore n'est pas directement saisissable, elle doit être reconstruite. L'archive indique cette expérience, mais ne la restitue pas dans sa dimension subjective. Elle nous donne la matière pour la recomposer a posteriori, mais comme pour la photo, le cinéma ou l'écrit, ce n'est pas une captation fidèle d'une réalité. L'espace sonore résulte d'une activité, comme nous le disait Laurent Legrain, anthropologue à l'Université du Mirail, dans le premier épisode. Si la vie sociale sonne, c'est qu'elle est liée à des déplacements, des corps, des artefacts techniques. Elle vient dire des choses d'autres dimensions de la vie sociale. Quand nous avons commencé à écouter l'aire urbaine toulousaine, ce sont les moteurs qui se sont mis à grouiller. Voitures, bien sûr, camions et motos tout autant, mais aussi avions et autres aéronefs. Et encore, des broussailleuses, tondeuses et coupe-haies, moissonneuses et tracteurs. Nous avons entendu comment les infrastructures qui relient les villes envahissent leurs abords. Les autoroutes et les lignes à haute tension, les voies ferrées et le trafic aérien. Nous avons entendu le flux monotone des voitures au rond-point à l'heure de pointe. Le rural a aussi sa part, et jusque tard dans la nuit, au mois de juillet, on entend parfois le balai des moissonneuses et des camions amenant le grain au silo. Les moissons réalisées par peu de gens et quelques machines, une activité parmi d'autres dans cette campagne urbanisée, où en temps normal, on ne voit que très peu les agriculteurs. Mais aussi le son que nous avons pu capter à l'entrée de chaque agglomération, autour de ces fameux ronds-points. Ici, le son du rond-point de Revel. La métropole toulousaine, en s'étalant d'une part, c'est-à-dire en dispersant les habitantes et en se concentrant d'autre part, en réunissant les activités sur des zones réduites, produit un mode de circulation pendulaire. Nous voyageons beaucoup, mais pour nous rendre sans cesse aux mêmes endroits, comme sur un immense rond-point où nous tournons en boucle. Dès lors, notre univers sonore est profondément marqué par la voiture, que l'on marche à Boucône ou que l'on flâne à Villefranche. Des cloches, les animaux à plumes et à poils, les insectes vrombissants et les végétaux s'agitant au gré du vent n'apparaissent que lorsque les autres sons leur laissent la place. La banalité et l'homogénéisation du paysage sonore a peu cours dans le témoignage que nous avons recueilli. On remarque tel son de l'eau, tel oiseau ou une sorte de silence. Parfois on parle de l'apaisement de telle voix suite à la construction plus loin d'une plus importante. On évoque le déplacement des ralentissements automobiles, mais pas leur dimension sonore. L'espace sonore est profondément relationnel. Écoutons encore Laurent Legrain.
Je vais te prendre un autre exemple, c'est que on a une racine aussi en mongol qui est dos. Ça peut faire un verbe. Dogarak, c'est quelque chose qui sonne. Donc j'étais dans une steppe de haute montagne avec un de mes interlocuteurs, un jeune gars, et à un moment il me dit Yon Dogarkhwe, ça veut dire qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui sonne. Et il utilise cette racine d'eau. Et donc on reprend les chevaux, on était sur les chevaux à ce moment-là, et on va voir. Et là, on voit un hélicoptère qui débarque, un certain nombre de touristes. Et là, on n'arrive plus à parler. Tout simplement à cause de l'intensité sonore, quoi, du bruit de l'hélicoptère. Et là, il me dit « Yamarik Shogyan Teve ». Donc il passe de dos, quelque chose qui l'intéresse, il faut aller voir ce que c'est, à quelque chose qui entrave les sons qui pourraient l'intéresser, c'est-à-dire notre conversation. Donc c'est cette idée-là, en fait. Ça entrave la bonne audition. Ça, c'est du côté de Shogyan, du bruit. Ou c'est quelque chose qui éveille la curiosité, un objet auquel on doit porter attention, et ça, c'est du côté d'eau. Mais en fait, tous les sons peuvent balancer d'un côté ou de l'autre en fonction du contexte. Le truc aussi, c'est que quelque chose qui m'a frappé, qui est quelque chose aussi de particulier à la Mongolie, mais qu'on doit avoir également ici, mais ici, en Mongolie, c'est très verbalisé, c'est très conscientisé, c'est que la voix de quelqu'un est profondément... On s'en souvient. C'est un marqueur vraiment très fort, quoi. On l'a décrit. On dit il a telle voix, il avait telle voix. C'est encore plus valable pour les gens qui meurent, donc c'est l'élément par lequel on va se souvenir d'une personne, quoi, ses inflexions de voix.
Cette indication sur le son de la voix est intéressante parce que nous n'y avions que peu prêté d'attention. Comme moyen de nos échanges, elle disparaissait sous l'intérêt que nous portions au contenu. Et pourtant, c'était très évident quand nous sommes allés à l'EHPAD de Lézade-sur-Lèze. Aujourd'hui, si on prête un peu l'oreille, on ne peut que se rendre compte que les inflexions de voix sont beaucoup moins marquées. Ce qui laisse à penser que l'espace sonore produit tend à devenir plus homogène. Dès lors, la disparition des paysages sonores singuliers comme identité d'un lieu, craint par Murray Schaeffer et son équipe, semble avoir eu lieu. Il n'est d'ailleurs presque plus possible de capter un environnement sonore sans la présence d'un moteur plus ou moins loin. Il faut dire que de plus en plus de personnes écoutent de la musique, la radio ou d'autres sources sonores. Ce faisant, leur environnement sonore n'est pas celui du monde qui les entoure immédiatement. Et parfois, casque sur les oreilles, elles en sont même totalement extraites. Tout autant, il y a des attentes, des représentations du paysage sonore, comme pour l'image, le son fonctionne par des éléments qui, isolément, renvoient à tout un univers. Ce clocher à lui seul évoque le village. Ce chant d'oiseau évoque la nature. Nous sommes tentés alors d'isoler tel chant d'oiseau ou tel autre, ce bruit d'eau délicat qui s'écoule, ou cette composition apaisante faite d'insectes virevoltants et de bruissements de feuilles. Pour saisir tel ou tel décor sonore, il faudrait tricher, focaliser la prise de son, adapter le moment de celle-ci. Nous avons voulu faire différemment. Ne pas chercher à illustrer un paysage, mais bien tenter de le saisir sans artifice, de s'y confronter en quelque sorte. C'est aussi une façon d'être présent, de se mettre dans une position d'exploration, d'étrangeté en terrain connu. D'une certaine manière, c'était aussi une façon de se mettre dans une disposition particulière, propice à la découverte. Pour autant, la démarche de l'archive nous demande d'isoler certains éléments qui pourraient avoir disparu dans quelques années. Garder la trace. Elle nous oblige à inventorier l'environnement pour s'interroger sur les différents éléments qui le composent et d'une certaine manière spéculer sur ses chances de survie. L'exercice est d'autant plus difficile qu'en premier lieu, il devrait concerner les sons du vivant soumis à une pression constante. Comment documenter la disparition de masse à laquelle nous assistons? Est-ce qu'elle est perceptible dans cet espace? Nous n'avions pas les moyens de faire ce travail qui reste à faire. Disons que nous avons réalisé une première étape qui reste à compléter, mais c'est le propre d'une archive, d'être toujours alimentée.
C'était Archives du temps présent, épisode 5, Un monde sonore. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont prêté leur voix. Réalisation, Ariella Epstein et Américo Mariani. Avec le soutien de la DRAC Occitanie, le Conseil départemental de la Haute-Garonne, la mairie de Toulouse et le FDVA. Vous pouvez écouter les 5 épisodes sur le blog de l'ORTI, associationlorti.wordpress.com.